Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est David Olivier, je serai votre animateur pour la prochaine heure. Ce soir, on s'intéresse aux nations fragiles, ces peuples qui affrontent la modernité. C'est le sujet du plus récent livre de mon invité, Félix Mathieu. Bonsoir Félix.
Bonsoir David.
Je suis très heureux de te recevoir à l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bien, merci beaucoup de l'invitation. Très heureux d'être ici.
Écoute, tout le plaisir pour moi, je t'assure. Félix, tu es titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval.
Oui.
En 2020, tu as complété ton doctorat en sciences politiques toujours, mais à l'Université du Québec à Montréal, avec une thèse intitulée « Les nations fragiles ». Trajectoire sociopolitique comparée. C'est un travail pour lequel tu as reçu la prestigieuse médaille d'or académique du gouverneur général.
Oui.
Tu es aujourd'hui professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Winnipeg, c'est au Manitoba, où tu enseignes principalement dans le champ de la politique canadienne.
Tout ça. Oui.
Je note aussi que tu es co-directeur de la Revue canadienne de sciences politiques, en charge de la section francophone, ainsi que co-directeur avec ton collègue et ami Dave Guenette, de la collection Prisme, autrefois fondée en fait par Guy Laforêt, n'est-ce
c'est
pas?
C'est ça.
C'est aux presses de l'Université Laval. Et on peut t'entendre aussi là, régulièrement sur les ondes d'ici Manitoba, Radio-Canada, tout ça. Tu seras aussi analyste, là, je pense, pour la campagne électorale à venir.
Oui, la campagne électorale qui devrait pas trop tarder.
C'est
là. Merci pour la belle présentation.
Ben écoute, on fait nos devoirs. on t'entend quand même quelquefois à la radio. Là. Je t'ai déjà entendu aussi au Québec, là,
oui.
Notamment au micro d'Antoine Robitaille,
oui.
Et probablement ailleurs aussi. Alors ce soir, on va revenir ensemble sur le livre que tu as fait paraître en octobre 2024 aux éditions Boréal, qui est en fait la version remaniée de ta thèse de doctorat.
Exactement.
Donc d'où le titre qui ressemble.
Ça se recoupe un peu.
Exact. Alors, allons-y d'emblée. Déjà, le titre le dit, hein, nation fragile, c'est une notion que tu as développée, je suppose, ou en tout cas, que je pense que c'est de ton cru, n'est-ce pas? Ça?
Oui.
Bon, c'est central dans la thèse que tu proposes dans ton livre. Peut-être, histoire de
c'est
mettre
quoi,
la table,
une nation
qu'est-ce
fragile?
Que c'est qu'une nation
c'est
fragile?
Mais en fait, c'est un concept que j'ai développé la première fois que j'ai évoqué l'idée. C'était en conclusion d'un chapitre qui était destiné à un ouvrage collectif. Puis je m'intéressais au modèle du vivre ensemble, à l'interculturalisme versus multiculturalisme. Puis je présentais les vertus. J'ai promu et défendu le modèle de l'interculturalisme dans différents travaux. Puis j'en arrivais à la conclusion dans mon texte. Mais le modèle de l'interculturalisme, il est pertinent, oui, pour le Québec, mais pour d'autres nations qui ressentent une certaine fragilité.
Ouais.
Et l'idée de dire « nation fragile », ça avait comme intéressé les gens. Puis là, le concept est un peu émergé sans trop que je m'en rende compte, mais ça poursuivait une trajectoire analytique que j'avais commencé à développer quand même. En fait, c'est quoi une nation?
Ouais.
Par une nation fragile, on peut dire c'est quoi une nation? Il y en a plein de définitions. Il y a de celle de Ernest Renan qui dit « un plébiscite de tous les jours
».
Il y a évidemment celle de Benedict Anderson qui dit « c'est une communauté imaginée ». Pas imaginée, mais imaginez en ce sens où même si au Québec, on ne rencontrera pas dans notre vie l'ensemble des Québécois, bon, on présume de leur existence, on est prêt à faire, on entre dans une certaine communion avec tout le monde, puis on est prêt à certains sacrifices aussi à travers les taxes, les impôts par exemple. Qu'on n'est pas prêt à faire, à consentir pour du monde qui ne font pas partie de notre communauté politique. Donc, une nation, c'est quoi? C'est, si on fait une définition usuelle ensemble, c'est un groupe de personnes, plus ou moins nombreux, il n'y a pas de chiffre absolu, qui habitent un territoire donné, qui vont affectionner également, toujours un certain affect par rapport au territoire. Et on va partager un ensemble d'attributs, souvent on va parler une même langue, et dans tous les cas, ce qui est commun à tous les projets nationaux. C'est une manière un peu de distinguer les communautés nationales d'autres types de communautés, par exemple ethnoculturelles ou issues de l'immigration. C'est des communautés politiques qui cherchent à être reconnues d'abord et avant tout par ce qu'on va appeler leurs autres significatifs, leurs autres donneurs de sens, qui peuvent prendre plusieurs visages. Alors, ça peut être dans le contexte québécois-canadien, le fédéral, les autres provinces, ça peut être la France, ça peut être d'autres États, d'autres nations. On va être reconnu comme un démos de démocratie, donc un peuple, un démos singulier, authentique, qui est légitime de s'auto-gouverner à travers son propre paramètre institutionnel et qui cherche systématiquement être l'architecte de son devenir, de son être politique. Et donc, on demande toujours de pouvoir exercer une autodétermination politique.
Voilà.
Donc, une nation, c'est on cherche à être reconnu comme un démos singulier, légitime de s'auto-gouverner et de s'auto-déterminer. C'est ça qui est commun à toutes les nations.
Ça fait partie des éléments que tu considères comme étant des aires constitutionnelles. C'est, oui. c'est la façon dont tu le nommes dans l'ouvrage. En fait, on parle aussi d'éléments que tu as soulevés dans ce que tu as développé avec, entre autres, ton collègue Dave Gennett, oui. l'index des cultures sociétales.
Oui.
Donc, il y a certains critères par lesquels on reconnaît le caractère plus ou moins fragile d'une nation.
C'est
ça. Et ça s'inscrit dans ces aires constitutionnelles. Quelles sont-elles plus détaillées, de façon plus détaillée?
Oui, donc, on revient à ces trois grandes aires, puis merci de le ramener en contexte comme ça. C'est le fun de discuter avec quelqu'un qui a lu, donc ça permet de nous ramener à l'essentiel. Une nation fragile, comment je le vois dans l'ouvrage, en fait, je m'intéresse aux nations non souveraines, minoritaires voilà. pour l'essentiel, donc qui ne représentent pas l'écrasante majorité démographique mm-hmm. dans un État souverain moderne. Je dis que celles-ci, qu'on peut penser au Québec ou encore à la Catalogne, à l'Écosse, etc., elles peuvent être plus ou moins fragiles selon qu'elles obtiennent une reconnaissance adéquate ou inadéquate de leurs autres donneurs de sens, ouais. selon qu'elles disposent des leviers institutionnels pour s'auto-gouverner et de s'auto-déterminer. L'index des cultures sociétales que j'ai développé avec Dave Gennett, c'est déjà une décennie qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. En fait, c'est qu'en 1995, il y a le philosophe politique canadien Will Kimlicka, un philosophe ouais, important, ouais, ouais. Dans sa théorie libérale du droit des minorités, dit quelque chose qui m'a vraiment séduite la première fois que je l'ai lu. Il dit, c'est une théorie normative, hein, donc c'est prescriptif. Il dit ce qui devrait être, non ouais, pas ce ouais, qui ouais, est. Ouais. Il dit, une nation minoritaire comme le Québec devrait avoir accès à sa propre culture sociétale pour évoluer de manière équitable dans un rapport de non-subordination avec les autres partenaires. Il dit, culture sociétale, il dit, grosso modo, c'est un réseau institutionnel qui permet de faire société. Très bien, mais mm-hmm. moi, comme politologue, puis avec mon collègue Dave Gennett, juriste constitutionnaliste, on se disait, ben, ça mange quoi en hiver,
ouais,
c'est une culture
ça.
Sociétale.
Retour, hein?
Donc, on a cherché à opérationnaliser cette notion-là, mm-hmm. et comme tu l'évoquais, ben, on en a fait découler des aires constitutionnelles, des variables, là, carrément, qui nous permettent d'observer à travers une série d'indicateurs empiriques ce qu'est en fait la capacité institutionnelle d'une nation minoritaire. Ouais. Donc, on revient à reconnaissance. On va regarder, par exemple, est-ce que dans la Constitution, dans l'ordre constitutionnel où la nation évolue, est-ce qu'on mentionne la nation en question comme étant quelque chose de singulier, de spécial? Et en retour, est-ce qu'il y a une forme d'asymétrie dans la Constitution en sa faveur, hein, pour mieux l'accommoder?
Ouais.
Après, en matière d'autonomie gouvernementale, là, la liste peut être extrêmement longue, ouais. mais nous, on essaie de ramener ça un peu à quelques composantes clés. Par exemple, est-ce qu'on a la capacité de définir notre langue comme étant la ouais. langue officielle mm-hmm. sur notre territoire? D'en faire également la langue officielle pour la structure d'éducation?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on a des pouvoirs en matière d'immigration, sélection de l'immigration? Mais également pour penser les paramètres de l'intégration mm-hmm. des nouveaux arrivants ouais. dans la culture publique commune. Est-ce qu'on a des modalités fiscales? Est-ce qu'on dispose de nos propres ressources ou est-ce qu'on doit quémander de l'argent ouais. Ah, ouais. à quelqu'un d'autre pour mettre en œuvre nos politiques sociales? Ça, c'est tous des paramètres qui se rapportent à la dimension, à l'ère constitutionnelle de l'autonomie gouvernementale. Puis finalement, il y a la dimension de l'autodétermination politique où là, on l'observe à la fois dans sa déclinaison interne et mm-hmm. externe. Et
ouais.
interne, c'est grosso modo, est-ce que comme nation minoritaire, on peut prendre le cas du Québec, mais on reviendra sur les autres cas tout à l'heure. Est-ce que le Québec ou qu'une nation minoritaire est en mesure d'opérer une révision de la Constitution? C'est-à-dire, si la Constitution, la loi fondamentale, ne lui convient plus,
ouais.
est-ce qu'elle est en mesure d'initier un processus pour la changer? Et dans cette dimension externe, ben, c'est le droit à l'autodétermination des peuples, l'idée de dire, si on veut faire sécession, est-ce qu'on a les modalités légales, politiques,
ouais.
pour se faire?
Dans le cas du Québec, on pourrait parler de façon interne, ce serait capacité de proposer une modification à la Constitution du Canada. Et externe, évidemment, c'est l'accès à l'indépendance.
Exactement.
Donc, j'invite quand même les auditeurs à garder ça en tête. Ce sont des éléments qui vont revenir dans les prochaines minutes.
C'est vraiment c'est le canevas analytique que j'emploie pour le reste de l'analyse.
Donc, à partir de là, peut-être donner une idée aussi là, rapidement avant d'entrer en détail. Quelles sont les nations fragiles que tu as identifiées dans le livre et pourquoi les avoir choisies plutôt oui. que d'autres?
Bien, en fait, y en a plusieurs cas qui m'intéressaient.
On aurait pu faire un livre de 800 pages.
Oui, c'est ça. Exact. Il en fait déjà 400, donc là, il fallait que je me restreigne. Sinon, mon éditeur au Montréal, il n'aurait pas aimé ça. Mais là, je voulais choisir. Évidemment, le cas du Québec me tenait fondamentalement oui. à cœur, étant donné que c'est ma propre société mm-hmm. politique, voilà. c'est ma culture citoyenne d'appartenance. Donc, il fallait que le Québec s'y retrouve. Maintenant, dans les études sur les nations minoritaires, il y a un peu la Sainte Trinité qu'on compare tout le temps. C'est Québec, Catalogne, Écosse. C'est les « usual suspects », entre guillemets. Et je voulais en parler, mais en même temps, je me disais, je veux pas répéter ce que plein de personnes ont déjà dit. Ouais. Donc, je voulais inclure dans l'étude comparative à la fois des cas typiques et des cas plus atypiques. Mm-hmm. Et donc, j'ai retenu des cas comme le Québec et la Catalogne. Et c'est intéressant parce qu'il y en a un, le Québec qui évolue dans une structure fédérale et la Catalogne dans une structure unitaire.
Ouais, ça,
parce que là, ce qu'on va, on en parlera plus longtemps dans un instant, mais dans l'étude, je m'intéresse à l'effet de la nature constitutionnelle de l'État, c'est fédéral ou unitaire, sur la dite capacité institutionnelle d'une nation minoritaire. Donc, Québec-Catalogne, c'est un peu comme les fondements. Je partais de ces deux cas-là. Maintenant, comment je pouvais aller sélectionner d'autres cas qui maximisait la variance, si on veut, dans les cas retenus. Québec-Catalogne, c'est une population très similaire et c'est vraiment des situations parallèles intéressantes à comparer. Maintenant, plutôt que l'Écosse, je me dis, mais je vais peut-être me tourner plutôt vers le cas de l'Irlande du Nord.
Ouais.
Il y a une minorité catholique là, qui revendique voir une pleine réintégration dans l'île, dans la République d'Irlande, ou encore d'avoir de plus grands pouvoirs. Il y avait eu les Troubles, donc un grand épisode de guerre civile. Et il y a eu une loi de nature constitutionnelle en 1998, c'est un traité qui formalisait l'état des choses. Donc, on est dans une structure unitaire ici, mais ce qu'on appelle un état de dévolution.
Oui.
Donc, ça ajoutait une variance sur le plan institutionnel. Après ça, il y a un cas qui m'intéresse beaucoup depuis assez longtemps, c'est le Tyrol du Sud en Italie. C'est un cas que pas beaucoup de monde connaît.
Non, c'est ça.
C'est 500 000 habitants, un peu plus. Là, c'est une population germanophone dans le nord de l'Italie. Ça appartenait à la double monarchie austro-hongroise jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un territoire qui a été cédé à la République d'Italie à ce moment-là. On a cherché à l'italianiser, à l'assimiler, puis finalement, au courant du 20e siècle, on a accommodé de plus en plus leurs revendications. Donc, un autre cas unitaire, et là, j'ai un autre cas dans une situation fédérale, et je me suis tourné vers la Belgique.
Ouais.
Belgique, ce qui est un cas hyper fascinant parce qu'on part d'une structure unitaire hyper centralisée dans les années 1830, où les francophones dominent et de loin la situation politique, et on se tourne graduellement au 20e siècle vers ce qui va devenir une structure fédérale. Et là, souvent, en Belgique, on porte notre regard sur la Flandre. Mais moi, finalement, je me dis, je vais regarder du côté la Wallonie, un cas que souvent on ne présente pas comme un cas de nationalisme minoritaire parce qu'en Belgique, le nationalisme, c'est les Flamands. Tandis que les Wallons, eux, c'est du régionalisme. Mm-hmm. Et les Wallons font beaucoup penser aux Anglo-Canadiens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas penser notre identité particulière, mais au final, ils partagent à peu près tous les attributs de ce qu'on donnerait à une nation.
OK, Puis, ceci étant dit, il y a quand même un autre élément qu'il faut absolument mentionner. Peut-être rapidement, puisque de toute façon, on va y revenir, mais il y a une métaphore que tu utilises, justement, pour décrire cette dépendance de la part d'un État non souverain un cadre constitutionnel de l'État auquel il appartient.
Oui.
C'est la dépendance au sentier institutionnel. Explique-nous ce que ça veut dire.
Oui, parce que, en fait, ça m'intéresse de savoir au temps présent ce qu'il en est des rapports de force institutionnels constitutionnalisés, mais au-delà de ça, je voulais expliquer comment, à travers le temps long, sur 200, 300 ans d'évolution de rapports de force, comment tout ça a évolué et a été influencé par la nature constitutionnelle de l'État, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, je reprends cette métaphore du sentier institutionnel, en fait, la théorie de la dépendance au sentier. C'est une théorie qui a été très en vogue, qui a été développée aux États-Unis, surtout en sociologie, des années 70, et la science politique s'est rapidement intéressée à ça. C'est une méthode qui essaie d'utiliser l'histoire, la temporalité, plutôt comme variable explicative. Là, les historiens ne seront pas très contents qu'on utilise ça ici, mais l'idée, c'est de dire, à un certain moment, il va avoir des décisions, des choix politiques importants qui sont à prendre, et on peut imaginer le randonneur qui arrive devant lui, deux sentiers à droite ou à gauche, il prend lequel. À un moment donné, collectivement, politiquement, on prend une décision. On décide d'aller à gauche, on décide d'aller à droite. Évidemment, on peut reculer, prendre l'autre chemin ou
sortir du
sentier. Mais comme un randonneur, plus on s'enfonce dans le sentier, plus c'est coûteux revenir en arrière et bifurquer. Et donc, la métaphore de la dépendance au sentier, c'est de dire à quel moment est-ce qu'un sentier institutionnel, soit unitaire, soit fédéral, qui a été fondé. Et après ça, d'observer l'évolution des points tournants qui ont soit renforcé les bornes idéales, mais institutionnelles également du sentier, ou qui les ont restreints.
En fait, c'est ça. C'est tout à fait pertinent. On va bien comprendre, je pense, que l'utilisation de cette métaphore-là en examinant chacun des cinq états. Je propose qu'on y aille rapidement.
Oui.
Donc, dans le livre, tu étudies, on l'a dit, cinq nations, cinq cas, des nations dites fragiles. C'est à travers leur trajectoire sociopolitique, qui est aussi une trajectoire historique. Ce sentier institutionnel-là de l'État souverain auquel elles appartiennent respectivement, tu repères pour chacun de ceux-là des balises, des événements significatifs qui influencent soit positivement ou négativement, comme tu l'as dit, le développement de la culture sociétale de ces nations-là. Donc, commençons par la Catalogne, le premier cas que tu étudies. Quels sont les moments significatifs de la trajectoire catalane au sein du sentier institutionnel de l'État espagnol?
Oui. Peut-être une petite précision avant ça. Lorsque je parle de nation fragile, faut également, je dois le préciser, c'est un continuum. C'est pas soit on est fragile, soit on n'est pas fragile. On est toujours plus ou moins fragile.
Exact.
Quelque chose j'aurais peut-être dû dire au départ, les nations majoritaires souveraines peuvent ressentir une fragilité. Hein. Dans le contexte actuel, Canada dans son ensemble, le Canada anglais, ressent une importante fragilité dans les rapports de force avec les États-Unis.
C'est ça
que j'étudie dans le livre. Maintenant, avec la Catalogne, c'est ça, le moment où on va fonder un sentier institutionnel, ce que j'appelle dans le livre le Big Bang,
oui.
la conjoncture critique, le Big Bang qui vient fonder le sentier institutionnel dans l'État espagnol, unitaire, plus ou moins centralisé. Aujourd'hui, on parle de l'état des autonomies. C'est, selon moi, la conjoncture critique. Tout de suite après l'échec de la première République espagnole, on se trouve en 1874-1875, au moment de la restauration de la monarchie.
Ouais.
En fait, c'est qu'à ce moment-là, ça a été un régime très instable. Mais les Catalans avaient quand même exercé un rapport de force important. Et elle avait l'acteur politique et philosophe Pi y Margall, qui a développé toute une philosophie sur le fédéralisme. Il développait son principe cardinal, c'était l'unité dans la diversité.
Ouais.
Ça avait beaucoup penser à certains idéaux des États-Unis fédéraux quand ils se sont formés. Ils s'intéressaient aux penseurs helvétiques suisses, donc comment ils avaient pensé à la Confédération suisse. Lui, il proposait justement une république espagnole qui soit fondée sur sa diversité constitutive, d'habilité politiquement, constitutionnellement, ces différentes composantes-là, à commencer par la Catalogne, mais évidemment le Pays basque, la Navarre, la Galice, etc. La Première République a été caractérisée d'instabilité politique énorme. On a restauré la monarchie et c'est comme si on a pris l'idée fédérale de Pi y Margall et on a dit c'est à cause de ça finalement. Mm. Et donc on a disqualifié pour le long terme le fédéralisme pour penser l'aménagement de la diversité sociétale ou profonde en Espagne. Et à partir de ce moment-là, avec la restauration de la monarchie, il y a eu différents moments qui ont soit ouvert les bornes du sentier pour favoriser une plus grande reconnaissance, autonomie de la Catalogne. Il y a différents moments à la fin du 19e siècle, par exemple, au début du 20e siècle, où avec un genre de Commonwealth essentiellement, on autorisait à ce qui sont devenus aujourd'hui les communautés autonomes, comme la Catalogne, à l'époque on parlait des pays catalans, à se rassembler, à voter certaines lois, à limiter finalement les pouvoirs de taxation, de dépenses, etc. Donc on vivait une vie politique interne assez développée, mais dans le contexte d'un État unitaire. Alors, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas la Catalogne comme une composante, comme un démos séparé du démos espagnol. Ça, c'est une constante dans la trajectoire espagnole. Il y a des turbulences qui vont se produire tout de suite après la Première Guerre mondiale, notamment. Il va y avoir une première dictature militaire, le régime de Primero qui va être mis en place. Et à ce moment-là, on va réduire presque à néant l'autonomie institutionnelle de la Catalogne. On va avoir certains moments où, avec une brève Deuxième République au tournant des années 1930, où on va avoir l'espoir que la Catalogne regagne des pouvoirs importants. Elle en obtient aussi, effectivement, pour un certain temps. Ça donne des idées de grandeur à certains acteurs à l'époque où on déclare la quasi-indépendance de la Catalogne. Là, ça crée des frictions. Et rapidement, dans les années qui vont suivre, c'est la dictature du général Franco qui prend forme. Donc, à la fin des années 30, 30. Et pour trois décennies, essentiellement, ça va être une période de purge anti-catalane. On ne peut pas parler catalan. Les monuments catalans sont rebaptisés avec des appellations castillanes, donc espagnoles. On cherche à limiter autant que possible l'existence culturelle et politique, par le fait même, de la Catalogne. Il y a différentes vagues dans la dictature du général Franco. Au début, on est très féroce dans la purge anti-catalane. Après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, parce qu'on cherche à être un peu admis dans le club des autres États, puis là, c'est un peu mal vu, les pratiques dictatoriales trop fortes. Donc, on finit par autoriser certaines pratiques culturelles. Il y a notamment un monastère à Montserrat, dans les montagnes en Catalogne. Je vous recommande à tout le monde d'aller d'y aller. C'est magnifique si vous passez par... C'est tout près de Barcelone. Où on commence, par exemple, à pratiquer les messes catholiques en catalan. Okay. Et là, ben, ça fait un clergé catalan qui donne la réplique au clergé catholique espagnol. Et donc, il y a une forme de résistance par la religion qui commence à s'établir. Puis après ça, ben, c'est également par le sport que tout ça va prendre forme. Le FC Barcelone contre le Real Madrid. Ça permet, ça autorise sur le plan du sport de mettre en scène l'opposition des communautés politiques.
Il y a quelque chose de symbolique, mais ça reste quand même assez concret. Pour le commun des mortels, exactement, en Catalogne, c'est représentatif.
Et encore aujourd'hui, le club, le FC Barcelone, c'est l'identité de la Catalogne. Il y a beaucoup cette représentation-là. Le général Franco décède et là, dans les années 70, on en vient à restaurer la démocratie. L'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le nouveau régime démocratique espagnol, qui sont des anciens alliés du régime de Franco. Et donc, c'est une période quand même c'est pas facile, mais on réinstaure la démocratie et c'est une constitution unitaire qui, en 1978, qui est adoptée, mais dans laquelle il y a une possibilité pour ce qu'on appelle les communautés autonomes, dont la Catalogne, de développer leur autonomie à travers des statuts d'autonomie. Donc, on doit négocier un genre de partage des compétences. C'est pas formel comme dans une fédération comme au Canada, mais on dit, nous, en Catalogne, on voudrait avoir tel et tel pouvoir. Là, on doit négocier ça avec le centre, l'équivalent du fédéral ici. On fait des percées rapidement, mais surtout, en Catalogne, on a l'idée, mais ça va être graduel. On va en chercher un peu, mais dans 15 ans, on ira en prendre plus, etc., etc. L'enjeu, c'est que les termes de la Constitution sont si abstraits, ça fait en sorte que, finalement, si on veut faire des gains en Catalogne, il faut vraiment avoir un rapport de force avec Madrid. Essentiellement, il faut qu'à Madrid, il y ait un gouvernement minoritaire qui a besoin d'appui des partis régionalistes et indépendantistes catalans pour former un gouvernement stable au centre. Et donc, c'est à ce moment-là. Dans les années 90, on fait certains gains. Au début des années 2000, on cherche à voter un deuxième statut d'autonomie, puis là, on va aller plus loin. On dit qu'on va avoir beaucoup plus d'autonomie fiscale, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, il y a un principe qu'on dit le café para todos, c'est le café pour tout le monde, un traitement strictement égal, aveugle aux différences pour toutes les composantes, sauf pour le Pays Basque et la Navarre. Et là, la Catalogne dit, si le Pays Basque et la Navarre, eux, ils ont un deal économique particulier qui est plus favorable à eux, nous aussi, on veut la même chose. On propose d'aller là, on le fait pas. On va être reconnu comme une nation avec un N majuscule. Il y a toute une symbolique, mais dans la Constitution espagnole, seule la nation espagnole a un N majuscule et les communautés autonomes peuvent s'appeler des nationalités, mais c'est un N minuscule et constitutionnellement, il y a une grosse différence ici. Donc, l'un, c'est l'autodétermination, l'autre, c'est une composante sociologique, si on veut. Et là, le deuxième statut d'autonomie est voté, adopté par référendum, approuvé au Parlement central, mais là, les forces conservatrices décide de le contester devant les tribunaux, devant l'équivalent de la Cour suprême, le tribunal constitutionnel là-bas, qui est très, très, très partisan. Et on en vient à réduire à peau de chagrin le statut d'autonomie de la Catalogne. Et là, on est au début des années 2010. C'est à ce moment-là que le mouvement indépendantiste en Catalogne prend de l'ampleur, dans le sillage également de la crise économique de 2008.
Ça. Évidemment, ça va mener à aujourd'hui, évidemment, un statut qui est très difficile là, pour la Catalogne. Il y a eu, toutes sortes de péripéties en lien avec le mouvement indépendantiste, l'exil de certains, l'emprisonnement de d'autres. Bon, on va passer rapidement là-dessus. Seulement, pour terminer sur la Catalogne, je veux que tu nous expliques rapidement quel est l'effet de la... Qu'est-ce que ça nous dit sur l'effet de ce que tu appelles la rationalité normative qui est inhérente à l'État unitaire en général? pour les nations fragiles, notamment pour la Catalogne.
Oui, ben merci de nous ramener sur le droit chemin analytique ici. Je m'emportais dans mes souvenirs.
Mais c'est si passionnant, cette histoire-là.
Tout à fait. Donc, il y a les référendums de 2014-2017. On les déclare illégaux. Déclaration unilatérale d'indépendance au Parlement catalan. Ça mène à l'exil forcé. D'autres vont en prison. On souffre de peine de prison importante. Ils vont être graciés éventuellement, mm-hmm. il n'y a pas si longtemps. Mais vraiment, un moment de grave crise politique ici. Le modèle espagnol nous informe beaucoup sur justement le modèle type de l'État unitaire assez centralisé. Ouais. Refuse totalement de reconnaître une composante interne comme étant singulière. On ne peut pas parler d'une Catalogne comme une nation minoritaire parce que dans la Constitution espagnole est très typique à ce niveau-là. Elle dit, on a un démos, un peuple, un et indivisible, et la souveraineté de l'État en découle. Mm. Et donc, on est dans une conception où il n'y a pas de place à la reconnaissance de la diversité nationale. Et en découle une marge de manœuvre pour accéder à des demandes en autonomie gouvernementale. OK, vous voulez protéger la culture, avoir votre économie, très bien, mais tant et aussi longtemps que ça se fait, que ça ne se fait pas au desservice de la protection de l'Espagne dans son ensemble. Par exemple, on ne peut pas en Catalogne encourager encourager l'apprentissage du catalan aux dépens de l'apprentissage de l'espagnol, parce que apprendre l'espagnol, c'est un devoir tous les Espagnols. Okay. Donc, c'est des composantes comme ça qui nous renseignent sur qu'est-ce que ça veut dire, l'État unitaire?
C'est une conception qui, disons, pour l'objet de notre entretien, disons, la version la plus orthodoxe de la conception unitaire de l'État dans les nations que tu as étudiées. Passons rapidement.
Un petit commentaire là-dessus. Rapidement, c'est que dans cette rationalité normative, l'État unitaire-là, ça fait en sorte que l'idée d'une autodétermination, l'idée qu'on pourrait faire sécession, c'est complètement hors de question. Ouais. On ne peut pas tolérer que ce soit même un sujet de discussion.
On va voir dans les autres cas qu'on va quand même passer rapidement, si tu permets, mais que c'est pas nécessairement toujours le cas dans des États unitaires. L'exemple du Tyrol du Sud et de l'Irlande du Nord, ce sont ces exemples qui ne sont pas les exemples orthodoxes, qui permettent un certain aménagement de la culture sociétale pour les États, des nations dites fragiles dans ces États. Oui. Peut-être un mot sur, par exemple, le deuxième statut d'autonomie au Tyrol du Sud qui permet l'établissement de ce que tu as découvert, ou je ne sais pas s'il y a d'autres chercheurs qui ont eu le même constat, mais le développement d'une démocratie dite consociative. Oui. C'est un élément qui va revenir aussi pour l'Irlande du Nord.
Oui, tout à fait. En fait, c'est que si on suit la logique du cas espagnol, catalan et de l'État unitaire, on se dit, il n'y a pas d'espace dans un État unitaire pour habiliter, pour reconnaître les nations minoritaires. Mais là, on se tourne vers le cas de l'Italie, puis on se dit, quand même impressionnant, une minorité de 500 000 habitants et des poussières est parvenue à obtenir des gains significatifs. Ouais. Parce que la minorité germanophone du Tyrol du Sud en Italie, on a cherché à l'italianiser rapidement, puis pendant la période avec la Deuxième Guerre mondiale, les régimes de Mussolini et de Hitler ont fait front commun. Ouais. Et en 1939, il y a eu ce qu'on appelle l'option. On proposait aux germanophones, soit vous restez en Italie, mais vous vous italianisez pour bon, arrêtez de demander d'être reconnu pour autre chose que d'être italien, ou vous rejoignez le Troisième Reich, et là, vous retournez dans la mère patrie germanophone. Oui. Et là, ça a vraiment créé des schismes importants, parce qu'on le disait tout à l'heure, une conception nationale, c'est attaché au territoire. Donc, la langue est importante, mais le territoire aussi. Deuxième Guerre mondiale prend fin, l'Italie change de bord également à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et dans les négociations, dans l'un de ces traités de Paris, évidemment, on a négocié un accord entre l'Italie et l'Autriche, qui est un peu l'ancienne mère patrie du Tyrol du Sud, pour reconnaître une certaine autonomie institutionnelle au Tyrol du Sud. Mais en fait, le Tyrol du Sud fait partie constitutionnellement d'une région, le Trentin au Adige, dans le nord de l'Italie, qui est un peu l'équivalent du régime d'union au Canada. Okay, ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux composantes, l'une qui va par contre être minoritaire démographiquement, puis à ce moment-là, ça aurait été les Italiens par rapport aux germanophones, mais c'est les italianophones qui vont dominer la politique. Donc, on dit qu'on accorde l'autonomie au Tyrol du Sud, mais en fait, on ne le fait pas vraiment parce que c'est avalé dans une autonomie, dans une région plus large. Et donc, Il y a beaucoup on rouspète à travers ça. Et là, c'est dans les années 50, 60, il y a des mouvements aussi paramilitaires, terroristes qui voient le jour. Et dans les années 60, 70, finalement, le mouvement de l'autonomie, disons, on veut une plus grande autonomie au Tyrol du Sud. En fait, ce que vous avez donné à la région, on aimerait ça l'avoir pour la province du Tyrol du Sud. Ça a amené au deuxième statut d'autonomie du Tyrol du Sud en 1972. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a formalisé un système de partage du pouvoir, démocratie consociative. Donc, les germanophones, les italianophones, puis une autre minorité dans la minorité, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est les Ladins, une communauté historiquement fondée là, avec une langue vernaculaire particulière aussi. Et on dit, bien, pour former l'exécutif du gouvernement provincial, il faut avoir des représentants des deux segments ethnoculturels. Chacun peut avoir un droit de veto, etc. Donc, on protège les fondements institutionnels, culturels de ces communautés-là. Et c'est un principe d'une autonomie graduelle. En gros, plus ça va être pacifique et ça va être ordonné, plus la province du Tyrol du Sud va pouvoir aller chercher des compétences pour s'auto-gouverner. Mmh. Et là, ben, on a eu une reconnaissance du Tyrol du Sud comme étant quelque chose de distinct, une autonomie constitutionnelle assez importante. En matière d'autodétermination, en Italie, ça reste un État unitaire, un indivisible. On ne peut pas faire sécession, mais il y a quand même la possibilité pour le Tyrol du Sud de demander à réviser la constitution italienne en passant par la région. Mmh. Donc, on doit négocier, on ne le fait pas de manière autonome dans la province, mais il y a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre qu'en Catalogne. Et donc, en la matière, le Tyrol du Sud, même si c'est beaucoup plus petit démographiquement que la Catalogne, c'est moins fragile que la Catalogne.
On va devoir passer à une pause publicitaire. Je propose qu'on continue la discussion après cette pause. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Schiste 94.3. Je suis toujours en compagnie de mon invité, le politologue Félix Mathieu, pour discuter de son plus récent livre « Les nations fragiles, ces peuples qui affrontent la modernité », publié chez Boréal. On a parlé avant la pause de certaines nations fragiles qui évoluent à travers le sentier institutionnel d'État de type unitaire. On va maintenant s'intéresser à deux nations dont la trajectoire s'inscrit plutôt dans le sentier institutionnel de l'État de type, d'un État de type fédéral. Il s'agit de la Wallonie en Belgique et du Québec dans le Canada, bien sûr. Oui. Revenons d'abord sur les principaux moments significatifs de la trajectoire wallonne. Quels sont-ils? Comment la Belgique, plus précisément, est-elle passée, tu l'as dit un peu plus tôt, d'une forme unitaire à une forme fédérale, multinationale et consociative? Ce terme-là revient. Oui. On pourra peut-être l'expliquer un peu plus en détail. Et donc, une forme qui permet davantage à la Wallonie de se développer, de développer sa propre culture sociétale.
Oui, donc la Belgique moderne naît comme État unitaire en 1830-1831. À ce moment-là, on cherche à constituer un État unitaire, dominé par les francophones. Ça fait vraiment beaucoup penser à la même époque à ce qui se déroulait au Canada. Mm-hmm. On a des mots très similaires que ce que Lord Durham avait envers les francophones. En Belgique, c'était envers les flamands. En gros, il y avait uniquement une voie pour le futur et c'était de passer par la langue française, la loi de la langue de la modernité. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un des parallèles intéressants à faire ici. Par contre, tout au long de la fin du 19e siècle et dans le 20e siècle, dès le début, les Flamands sont majoritaires. Les francophones ont toujours été minoritaires en Belgique, mais ils avaient le haut du pavé dans les rapports de force, dans les négociations. Il y a une série d'événements, et je passe très rapidement au 19e et tout au long de la première moitié du 20e siècle, mais c'est vraiment dans la deuxième moitié du 20e siècle où on reconfigure en Belgique les rapports de force. Parce que là, non seulement les Wallons veulent poursuivre la transformation de l'État, parce qu'on réalise, il y a une fameuse lettre, la lettre de Jules d'Estrée, la lettre au roi en 1913, je crois, il dit, mais il n'existe pas de Belges. Vous avez devant vous deux nations, les Wallons et les Flamands. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du roi des Belges et non pas le roi de la Belgique. C'est une dénomination plurielle dans son fondement même. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, on cherche à un peu revoir comment est-ce qu'on va organiser le pouvoir dans les État. l'État. C'est que autour de Bruxelles, Bruxelles étant la capitale, et dans l'enclave flamande, donc au nord du pays, et là, les Flamands sont un peu insatisfaits du fait que de plus en plus de francophones vont s'établir dans les banlieues de Bruxelles. Et là, ben, des facilités bilingues qui vont être en place. Donc, on va dire, on va arrêter ça. On pourrait avoir des frontières linguistiques qui vont venir avec des frontières communautaires, politiques également. En 1970, c'est la première d'une série de réformes de l'État. Si au Québec et au Canada, on a de la misère à changer la Constitution, là-bas, c'est le sport national, carrément. On change la Constitution à tous les 10-15 ans. En 1970, on change la Constitution pour la première fois et c'est le Big Bang qui m'intéresse. On ne change pas encore la Constitution pour une structure fédérale, on est toujours dans une structure unitaire, mais c'est l'entrée du consociationalisme.
Bon.
Et donc, le consociationalisme, c'est un partage du pouvoir, c'est une démocratie du consensus. Mm-hmm. On veut chercher le consensus entre des segments de la population. Donc, entre les Wallons, entre les francophones, les francophones de Bruxelles, les Flamands en Flandre, mais également les germanophones. Il ne faut pas oublier cette communauté politique-là, les germanophones en Belgique. Et donc, l'idée, c'est de trouver comment dans le Parlement, au Sénat, on va avoir des mécanismes pour s'assurer d'une représentation effective des intérêts de chacun des segments. Et c'est, en fait, le début, c'est pour ça que c'est vraiment le Big Bang pour le sentier d'aujourd'hui, c'est le début de la fin de l'État unitaire. Il y a une expression, on disait, la Belgique à papa est derrière nous. Et donc, il y a une transformation inévitable vers le fédéralisme. Le fédéralisme va être consommé véritablement en 1993. C'est un point tournant très positif où là, on change la Constitution et à l'article 1er, on dit que la Belgique est un État fédéral composé de communautés et de régions. Et là, ce qu'on fait, c'est un casse-tête institutionnel, la Belgique, vraiment. C'est un beau casse-tête pour les politologues, les juristes, mais c'est dur à expliquer. Mais en gros, il y a des communautés, il y a des régions il y a des régions linguistiques également. Et donc, il y a des compétences qui sont attribuées aux communautés, d'autres aux régions. Il faut comprendre que la Flandre est en mesure de fusionner la région et la communauté flamande en un seul parlement, tandis que la Wallonie n'a jamais réussi à le faire, entre autres en raison des francophones de Bruxelles. Mm. Donc, il y a une dimension supplémentaire à cet aspect-là. Mais à partir des années 90, on va entreprendre une série de mesures de décentralisation. En gros, on prend tous les pouvoirs qui étaient au centre de l'État, dans les institutions centrales, dans la capitale, et on en enlève une poignée à chaque moment qu'on a une réforme de l'État. Là, on s'en va vers une 7e réforme de l'État prochainement. Ce qui fait qu'en sorte que dans les années autour de 2014, on a eu 540 jours sans gouvernement central en Belgique, c'était pas dramatique. D'une part, parce qu'il y a un gouvernement de transition là, qui chargeait les affaires courantes, mais aussi parce que le centre a été évacué des compétences les plus importantes.
Il restait d'autres gouvernements dans les régions.
Qui fonctionnaient. Bon. Exactement. Et un autre truc que je n'ai même pas dit, mais il y a aussi 27 provinces en Belgique, donc on ajoute d'autres composantes, mais c'est plus comme des municipalités ici. Okay, ils n'ont pas de pouvoir énorme. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment des composantes institutionnelles intéressantes où la Belgique est passée d'une structure unitaire au service des francophones à une structure fédérale qui a satisfait à certains des intérêts mis de l'avant par les Wallons depuis le tout début, mais finalement, on a répondu davantage aux revendications des Flamands qui, eux, voulaient avoir plus de pouvoir, c'est une région plus riche, et qui voulaient un peu, d'une certaine manière, cesser de financer les institutions belges ou wallonnes plus spécifiquement.
Donc, la trajectoire wallonne, on se rapproche un peu de la, disons, des revendications dans une certaine mesure, bien sûr, là, des autres communautés sur le territoire. En fait, ça accommode à peu près tous ceux qui veulent ou qui voudraient avoir plus d'autonomie institutionnelle.
Exact. Mais au point où la décentralisation est tellement allée loin en Belgique que maintenant, il y a même des Wallons qui disent, mais là, il faut faire attention. Il faut s'assurer de ne pas enlever, par exemple, le système de sécurité sociale des compétences belges parce qu'on est conscient que c'est la Flandre qui est la plus riche. Et donc, si la Wallonie est à elle-même gestionnaire de son système de santé et services sociaux dans son ensemble, on a peur qu'il soit moins fort que si on est en compagnie de la Flandre en la matière.
Ah, voilà. C'est intéressant. Ces complexités-là, dans différentes régions, dans différents pays aussi. Là, on parle d'un État fédéral. On voit que c'est quand même assez différent si on se projette au Québec maintenant.
Oui.
Parce que la trajectoire québécoise s'inscrit aussi dans un sentier institutionnel qui lui a été en quelque sorte imposé, d'abord par le colonisateur britannique et puis évidemment par la suite par l'État fédéral canadien. Évidemment, là, on connaît peut-être un peu mieux l'histoire du Québec, quoique on pourrait en apprendre à plusieurs, même au Québec et au Canada. Peut-être avant toute chose, il faut dire un mot de l'acte de Québec.
Oui.
On s'intéresse beaucoup plus à l'Arc de Québec depuis quelques années.
Oui, ben, je pense que oui.
Notamment sous ton impulsion, avec d'autres collègues, bien sûr. Là, je pense notamment au colloque qui a eu lieu l'été dernier sur l'Arc de Québec. On peut considérer l'Arc de Québec de 1774, donc après la conquête, mais avant les rébellions, avant évidemment la Confédération ou l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. On considère l'Arc de Québec, en tout cas certains le font, comme un moment fondateur dans la trajectoire politique et constitutionnelle du Canada, notamment en ce qui a trait à la capacité du Québec de se développer une culture sociétale.
Oui.
Parle-nous de ça un petit peu.
Bien, d'abord et avant tout, c'est que l'Acte de Québec, moi, c'est un événement dont j'ai appris véritablement l'existence, sa signification assez tardivement. C'est-à-dire, j'étais à l'âge adulte quand j'ai appris l'histoire politique constitutionnelle du Québec et du Canada. Mm-hmm. Évidemment, la Nouvelle-France, la conquête, après ça, il y a les rébellions des patriotes, la Constitution de 1867, mais l'Acte de Québec de 1774... J'en avais pas vraiment entendu parler. En fait, oui, on sait que c'est de ce moment-là d'où découle le bijuridisme, le fait que le Québec, encore aujourd'hui, a son code civil d'inspiration française, un système de droit différent de la common law qui est pratiqué partout ailleurs au Canada. Alors que s'approchait le 250e anniversaire de l'Acte de Québec, donc qui était en juin 2024, moi, j'avais commencé déjà à m'intéresser à la signification de ce moment-là. Et j'en suis venu dans ma trame analytique à dire, en fait, selon moi, le Big Bang, pour comprendre la situation d'aujourd'hui pour le Québec dans le Canada, c'est pas la conquête, ce que beaucoup mettent de l'avant.
Sans qu'on néglige cet événement-là.
Non, faut pas négliger la conquête, en fait. Et c'est pas 1867 non plus, l'Acte d'Amérique du Nord britannique.
Donc, qui introduit le régime constitutionnel actuel.
C'est ça. Donc, pour moi, c'est l'Acte de Québec parce que en 1763, avec la proclamation royale, la conquête, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient proposer d'assimiler fondamentalement la population canadienne francophone catholique, là, comme à l'époque, dans l'Empire britannique, qu'on cesse de pratiquer la religion catholique. Donc, on met des bâtons dans les roues, on ne peut pas donner la dîme, par exemple. La structure seigneuriale pour penser l'aménagement du territoire, on veut la remettre au rencard au profit d'un régime cantonal. Ça n'a jamais été pleinement mis en œuvre, mais on l'a pensé. Et grosso modo, on se disait, ils vont être mieux servis, les francophones catholiques, dans la common law, dans le système britannique. Ça n'a pas fonctionné, l'assimilation, entre autres pour des raisons démographiques, c'est-à-dire que les colons britanniques ne sont pas arrivés dans le nombre qu'on l'espérait du côté des autorités coloniales. En même temps, au sud de la frontière, il y avait les mouvements révolutionnaires des 13 colonies. Et là, on commençait à avoir peur que les Canadiens francophones catholiques se joignent à ce mouvement révolutionnaire-là. Et donc, pour un ensemble de facteurs, dont plusieurs qui sont vraiment pragmatiques, on se dit, pour contrer ça, on va accommoder certaines revendications qui sont mises de l'avant, notamment reconnaître la religion catholique comme un interlocuteur légitime, régime seigneurial, on va tolérer ça, le code civil, on va maintenir ça en place, on va avoir leur propre manière de gérer leurs différends légaux. Mais à ce moment-là, c'est unique dans l'Empire britannique de proposer ça. Et selon moi, si aujourd'hui on a encore le bijuridisme qui en découle dans un certain bilinguisme, ça découle de ça. Et si 100 ans plus tard, dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le régime fédéral donne autant de pouvoir aux provinces, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est notamment en raison du précédent que représente l'Acte de Québec de 1774.
Et ce, malgré d'autres épisodes entre les deux qui ont parfois flirté vers une autre forme d'assimilation, voire la répression, si on pense par exemple aux rébellions patriotes. Ouais. Force est de constater qu'effectivement, avec le l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, il y a un retour de ce genre d'accommodement-là pour les Canadiens français. Si on fait un portrait rapide de ce qui se produit à partir de 82 par rapport à 1867, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retour du balancier pour la version centralisatrice, moins accommodante du régime constitutionnel canadien?
Oui, c'est-à-dire quand que je présente le sentier institutionnel canadien, c'est un État fédéral qui va osciller entre un pendant accommodant et un pendant plus assimilationniste. Après les rébellions des Patriotes, l'Acte d'Union, ça a été un pendant assimilationniste. 1982, on peut le voir dans la lignée de tout ça. On ne va pas aussi loin parce qu'on ne change pas les pouvoirs. C'est-à-dire que le Québec ne perd pas de pouvoir constitutionnel. Mm-hmm. Par contre, on vient introduire la Charte canadienne des droits et libertés sans le consentement du Québec, évidemment. Ouais. Et en faisant ça, on vient homogénéiser d'une certaine manière la marge de manœuvre dont vont disposer les assemblées législatives des provinces, l'Assemblée nationale du Québec. On ne peut pas adopter des lois pour protéger le fait français qui irait à l'encontre de ce qu'on retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ça va amener notamment la loi 101 à devoir être revue à la baisse pour être certain de se plier finalement aux normes constitutionnelles qui en découlent. Mais également, c'est toute la procédure qui a mené à 1982. Si on était foncièrement dans un pacte entre deux peuples fondateurs, comme on le laisse entendre à travers l'Acte de Québec et ce qui va en découler, on n'aurait pas pu procéder au changement de la loi fondamentale sans le consentement du Québec.
Oui, c'est ça.
Et donc, oui, il y a un recul en la matière ici. Ça a contribué notamment à fragiliser d'une certaine manière le Québec, également parce qu'on retrouve à l'article 27 de la Constitution canadienne, l'article en lien avec le multiculturalisme canadien, la protection du patrimoine multiculturel des Canadiens. Ça s'inscrit dans une logique multiculturaliste canadienne où toutes les cultures sont toutes minoritaires d'une certaine manière. Il n'y a pas de majorité culturelle et donc le Québec est porteur d'une culture qu'il faut plus ou moins protégé de la même manière que les cultures ethnoculturelles issues de l'immigration. Et le Québec s'est dit, ben non, nous, on est une culture sociétale, on est nous-mêmes un pôle d'intégration, donc on veut que le gouvernement du Québec ait des pouvoirs plus importants en la matière. À travers la philosophie, la vision de Pierre-Éliott Trudeau et de plusieurs personnes qui vont approfondir tout ça dans les mécanismes institutionnels du Canada, on va avoir fragilisé d'une certaine manière la capacité du Québec à pleinement se développer comme il l'entend à travers ces mécanismes législatifs. Après, on n'a pas un recul énorme en termes de ce que le Québec peut faire, mais c'est le rapport au temps. Si on compare notamment le cas du Québec avec le Tyrol du Sud dont on parlait tout à l'heure, bien, au Tyrol du Sud, à partir des années 70, on a connu une croissance dans le pouvoir dont on dispose. On n'en a peut-être pas autant que le Québec en a dans le Canada d'aujourd'hui, mais on a l'impression que ça va en croissance, c'est positif. Au Québec, les pouvoirs qu'on a, on les a eus en 1867. Et depuis, on a l'impression qu'on en perd. Et donc, cette impression-là peut être amplifiée par certains événements, mais dans tous les cas, ça ajoute à l'idée de dire qu'il y a une fragilité amplifiée finalement par le contexte post-1980.
À tout le moins, on pourrait dire que si on n'en perd pas, ce qui est fort probable qu'on en perde d'ailleurs, là, si on analyse ça de manière très froidement, mais même ceux qui n'ont pas nécessairement une connaissance très fine de ces mécanismes-là, qui n'ont pas l'impression de perdre quoi que ce soit, il y en a beaucoup qui sont conscients du fait que dans l'état actuel de la Constitution canadienne et des mécanismes qui permettent sa modification, on est plutôt dans un impasse. Si on perd rien, en tout cas, on ne peut pas rien gagner non plus.
Bien, c'est ça. C'est qu'en fait, ça, c'est un autre terme de ma grammaire analytique, les impasses. On est dans une situation où, en ce moment, ça semble improbable de trouver un terrain d'entente pour concilier l'horizon d'attente du Québec, sa place, sa vision dans le Canada ou à l'extérieur du Canada avec ce que le Canada dans son ensemble met de l'avant. Et donc, c'est pour ça que je parle d'impasse en la matière. Dans les dernières années, il y a quand même des trucs intéressants qui se passent en ce sens où on a cessé un peu de caresser le rêve du grand soir, de dire on va changer la Constitution
du tout au lendemain.
On utilise un peu la porte arrière de la Constitution, les initiatives constitutionnelles unilatérales. On a enlevé le serment au roi récemment. On est allé jouer dans le genre de Google Doc qui est la Constitution canadienne en disant mais on va ajouter une clause interprétative en disant que nous, le Québec, on le considère comme une nation et que le français, c'est sa seule langue officielle. Et ça, on peut le faire dans la Constitution. Après, est-ce que ça va forcer les tribunaux, la Cour suprême du Canada à le reconnaître? On ne le sait pas encore.
T'as raison. Puis il n'y en a même pas moins que ça c'est une forme d'innovation en matière de constitutionnalisme d'une façon unilatérale de la part du Québec. Puis quand tu parles du Google Doc, c'est une expression qu'on entend de temps à autre. Là. Je pense que c'est, en tout cas, j'ai entendu souvent Antoine Robitaille le dire.
Oui. Je pense que c'est son expression préférée. Oui.
En fait, ce dont on parle, c'est une section de la Constitution canadienne qui est accessible ou, disons, réservée au Québec, dans lequel le Québec peut lui-même décider de faire des modifications sans le consentement du fédéral ou des autres provinces.
On ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est l'article 45. À ce les gens veulent aller le voir.
Oui, c'est ça.
Là,
on ne s'étendra pas là-dessus, mais je trouvais intéressant quand même de le mentionner. Oui. En fait, ça m'amène aussi à préciser une chose. Avec les cas qu'on a mentionnés depuis le début, on se rend compte que qu'on soit dans un régime unitaire ou fédéral, il peut y avoir des aménagements, comme il peut y avoir une philosophie qui fait en sorte que non, il n'y en aura pas d'accommodement. Ouais. Dans le cas, par exemple, de la Catalogne, on voit que là, c'est allé peut-être au bout de quelque chose, puis on voit mal comment ça pourrait débloquer de façon favorable pour la Catalogne. Ça, c'est un État unitaire.
Ouais.
Dans le cas du Québec, on dirait que c'est le même constat. C'est dans un État fédéral.
Ouais.
Dans les deux autres cas, puis on pourrait ajouter l'Irlande du Nord dont on n'a pas parlé, mais qui est un cas très intéressant aussi. Ouais. Ben là, État unitaire dans le cas du Tyrol et de l'Irlande du Nord, mais des aménagements consociatifs, puis pareil, ben là, dans le cas de la Belgique et de la Wallonie, un régime fédéral que là, encore une fois, bon, décentralisation importante, quand même capacité institutionnelle majeure pour les entités fédérées.
Ouais.
Ça m'amène à la conclusion, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur un des objectifs de ton livre, à savoir la pertinence de l'habilitation politique des nations fragiles. Il y a plusieurs raisons qui militent en faveur de cette habilitation-là, mais il y a aussi des raisons qui expliquent les réticences qu'ont certains États à favoriser l'autonomie institutionnelle des nations non souveraines. Il y a ce que tu appelles, et je ne pense pas que tu sois le seul à appeler ça comme ça, un paradoxe.
Oui.
Un paradoxe de l'habilitation. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de l'habilitation et comment est-ce que ta perspective, que tu appelles le libéralisme national, permet de surmonter ce paradoxe-là?
Oui. Le livre, ce qui me permet de montrer, c'est que si en théorie, on se dit le régime fédéral est plus accommodant que le régime unitaire, la réalité est toujours plus complexe. Puis on voit que parfois, dans des régimes unitaires, on parvient à des percées, à des terrains d'entente. Et d'autres fois, dans des régimes fédéraux, ça ne va pas aussi loin qu'on l'espérait. Mm-hmm. Ou en tout cas, on n'est pas dans une ligne unidirectionnelle, toujours vers plus d'accommodement. Voilà. Maintenant, le paradoxe de l'habilitation, en fait, il y a tout un débat qui existe dans la littérature sur ce qu'on appelle le paradoxe du fédéralisme.
Oui, ouais.
Je l'ai étendu à l'habilitation parce que je me dis, mais dans un État unitaire qui donne plus d'autonomie, ça revient un peu au même.
Oui.
Mais le paradoxe du fédéralisme ou de l'autonomie, c'est de dire, ben, si on a au sein d'un État une composante, une nation minoritaire qui demande plus de reconnaissance, plus d'autonomie, plus de pouvoir, si on lui en donne pour l'accommoder, ça se peut que ça nous revienne en pleine face. Ça se peut que l'élastique nous pète en pleine face parce qu'on donne les outils institutionnels à cette communauté-là pour montrer qu'elle est capable de s'auto-gérer et de montrer à sa population, ben, on a bien fait ça jusqu'à maintenant, allons plus loin jusqu'à la pleine indépendance.
Ben oui.
Et donc, il dit, c'est un paradoxe parce qu'on cherche à accommoder un mouvement, mais finalement, on l'outille pour que ça mette fin à l'État duquel on existe.
Si on ne l'encourage pas vers la sécession, finalement.
Exactement. Puis, c'est un débat que je trouve intéressant, mais selon moi, c'est un faux débat, c'est un faux paradoxe. Mm-hmm. Parce qu'il existe seulement, si et seulement si, ce paradoxe-là, si on érige comme finalité du politique le maintien ou la permanence des frontières des États souverains actuels. Du moment où on accepte l'idée qu'il peut y avoir de nouveaux États qui existent, que les frontières actuelles des États puissent être reconfigurées pour un ensemble de facteurs, ben, c'est plus un paradoxe, c'est simplement une réalité, une évolution de rapport de force. Et dans l'ouvrage, ben, je dis, un peu pour dénouer ce paradoxe-là, je retourne au fameux sociologue Max Weber, fameuse conférence qu'il avait intitulée « Le savant et le politique », dans laquelle il distingue entre deux types d'éthique, une éthique de la conviction, une éthique de la responsabilité. Voilà. Puis une éthique de la conviction, il dit en gros, c'est tu vas agir selon des principes moraux a priori qui précèdent une action. Donc, tu sais déjà ce qu'il faut faire.
Oui,
tu as une conception
ça.
Du bien. C'est en ce sens-là que je développe l'argumentaire autour du libéralisme national où je dis, ben, le libéralisme national, ça dit les grands idéaux de la modernité du libéralisme, l'autonomie, l'égalité, la liberté. Tout ça n'est accessible que si on est ancré comme individu dans une communauté plus large, une communauté qui prend le visage d'une nation, d'une communauté nationale. Et donc, tant et aussi longtemps que ça, c'est la réalité, ben je ne vois pas d'argument profond qui nous amènerait à accepter de tolérer ça pour les nations majoritaires, qu'elles soient institutionnellement solides, et le refuser aux nations minoritaires. Et donc, d'un point de vue normatif, déontologique, on pourrait dire, je formule un argumentaire de dire, mais on devrait accommoder les nations minoritaires, même si ça en venait à faire éclater les États actuels. Selon moi, ce n'est pas un problème en soi. Ouais. Je ne crois pas que l'accès à l'indépendance ou la pleine souveraineté est une fin en soi. Je crois que dans tous les cas, c'est des moyens pour accéder à une plus grande justice sociale. Et donc, si le moyen pour y arriver, ben, c'est la pleine sécession, ouais, certes, et si c'est accommodé au sein d'un État plus large, certes. Maintenant, cet argumentaire-là de l'éthique de la conviction, c'est un peu prêché aux convertis. C'est-à-dire ouais, que si on accepte mes prémices, on va accepter mes conclusions, mais si on ne les partage pas, les prémices, on les refute. Donc, je disais, qu'est-ce que je peux dire pour convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec moi? Je me dis, je vais aller dans l'argumentaire d'une éthique de la responsabilité, un réalisme politique.
Ouais.
Mais dans un réalisme politique, on observe, je regarde à travers les cas que j'étudie, mais d'autres cas également que j'aborde dans la conclusion, il n'y a aucun exemple avéré de nation minoritaire qui évolue dans une démocratie libérale avancée où on lui accorde des pouvoirs pour l'accommoder, qui a effectivement fait sécession. Et donc, il n'y a aucun exemple où ça s'est arrivé. Donc, jusqu'à nouvel ordre, accommoder les nations minoritaires permet plus de les accommoder que de outiller un mouvement sécessionniste qui arriverait, qui parviendrait à ses fins. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une panacée, ça ne veut pas dire que ça n'y mènerait pas, mais encore une fois, même si ça y menait, ce ne serait pas la fin du monde de ma perspective. Mais également, lorsque je regarde les cas qui m'intéressent, lorsqu'on a consenti à des mesures pour accommoder les nations minoritaires, ça semble s'être accompagné d'un sentiment de loyauté renforcée envers l'État dans son ensemble. Donc, une loyauté conditionnelle, dire « on me traite bien, je vais être prêt à faire un bout de chemin avec vous ». Puis à l'inverse, si on prend le cas du Québec ou encore de la Catalogne, au Québec, c'est au lendemain qu'on a dit non avec le Lac-Mitch, avec Charlottetown, pour renouveler l'ordre constitutionnel canadien, que l'appui en indépendance
était le plus haut,
est allé à son sommet, au-dessus de 50%. Et en Catalogne, c'est après qu'on lui a dit non à son deuxième statut d'autonomie que ça a monté en flèche également. Et donc, je prends ces exemples-là et les autres de l'Irlande du Nord, de la Wallonie et du Tyrol du Sud pour mon bien, voici des exemples où on a parvenu à mieux favoriser la coexistence pluraliste pacifique.
C'est super intéressant. Puis en fait, c'est que ça donne ça remet en perspective finalement l'idée selon laquelle les velléités indépendantistes des nations sont vraiment le fait d'une plus grande autonomie octroyée par, par plus haut, disons. En fait, on se rend compte que c'est bien plus souvent en réaction que, qu'autre chose.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on... disons pour le Québec, là, si on termine là-dessus, y a un message, disons, dans les conclusions là, auxquelles tu viens, il y a quand même un message qui est possible de déceler là-dedans, notamment pour les citoyens, mais aussi pour les autorités politiques des pays qui sont confrontés à la présence de nations fragiles en leur sein et qui souhaitent plus d'autonomie. C'est le cas, entre autres, du Québec. On a des dirigeants au Québec qui agissent sur ce terrain-là. On l'a dit tantôt, il y a eu certains gestes, certaines innovations qui ont été faites. Aujourd'hui, au Québec, la situation du Québec dans le Canada, par rapport à tes analyses, qu'est-ce que les dirigeants et les citoyens devraient comprendre de la situation actuelle?
Oui, en fait, on va l'ancrer dans une discussion très, très, très actuelle. Il y a eu, l'automne dernier, le dépôt du rapport Proulx-Rousseau sur le comité consultatif sur les changements constitutionnels. Ils vont, je crois, de 42 recommandations. Pas le temps d'aller dans les détails sur les 42 ici, mais ils en font plusieurs. Une qu'on peut consolider autour de l'idée, il faudrait que le Québec se dote de sa propre constitution écrite, où ce sera un moment judicieux pour le Québec d'affirmer c'est quoi sa propre conception de lui-même, d'en faire un document rassembleur finalement autour de ça, mais également pour établir un rapport de force avec Ottawa, pour dire, bien, nous, on va ériger certains documents, certaines dispositions législatives qu'on a déjà, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la loi 101, la nouvelle mouture également, on va tout consolider ça, et idéalement, selon moi, on devrait ajouter une loi sur l'interculturalisme. Là, je ne crois pas que le gouvernement actuel va dans ce sens-là,
mais il y a un autre projet de loi
sur l'intégration nationale, il manque la composition de l'inclusion pour que je le défendent. Mais quand même, il y a des composantes intéressantes ici. Il y a d'autres gains qu'on peut faire. Par exemple, le Québec pourrait aller de l'avant en disant, ben nous, on veut que le Québec puisse choisir les juges que Ottawa va nommer à la Cour suprême.
Ça fait longtemps que ça, on y pense.
Exactement. Donc, il y a plein d'actions que le Québec peut entreprendre. Et si je me tourne vers les autorités fédérales, ben je leur dirais, acceptez de danser un peu parce que si vous voulez maintenir le statu quo coûte que coûte, ben ça risque plus de revenir contre vous que de finalement accepter d'accommoder les revendications du Québec.
Si on se fie à l'expérience qu'on voit depuis quelques années dans d'autres États, mais on sait que les mouvements indépendantistes ne sont pas nécessairement à veille de se taire.
Ouais.
Il y a eu plusieurs mouvements. Parfois, ça a mal fini. Généralement, ça n'a pas nécessairement fini en nouvelle entité politique.
Non.
Mais ça n'a pas fini si bien que ça non plus.
Donc, il faut trouver des manières de coexister, de cohabiter. Puis je crois que de dialoguer sur le temps long et de manière continue, c'est une manière d'y arriver.
Dans la bonne foi, finalement. C'est ça. C'est super intéressant. Écoute, c'est ce qui m'a fait à l'émission. J'espère que les gens ont apprécié. On est passé rapidement, là. C'est quand même un défi.
C'est 400 pages résumées en 3600 secondes.
C'est ça, exactement. Donc, mais j'invite quand même les auditeurs qui seraient intéressés là, à aller lire ton ouvrage en détail. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu le laisser entendre aujourd'hui. Mais je pense que c'est très accessible de toute façon. Donc, ayez pas peur de vous y plonger. C'est un ouvrage qui est fascinant. Écoute, merci. Merci infiniment, Félix, d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Bon séjour à Québec.
Merci à toi, David, et plaisir partagé.
Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve dans deux semaines avec une autre émission, cette fois au sujet de la radio et de la balado comme outil de vulgarisation historique. Une émission sous forme de mise en abîme, pourquoi pas. On recevra le réalisateur et animateur et chroniqueur à la radio, André Martineau. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fin de soirée.